On continue notre belle petite étude sur l'Église. Ce qu'on vient de parler tantôt, là, ça a un petit peu rapport, mais juste vers la fin. Le sujet du message aujourd'hui, c'est de prendre garde aux ennemis de l'Église. La question qu'il faut se poser, c'est on voit-tu venir les loups? On est-tu aux aguets pour prévenir les attaques du diable qui est le lion rugissant? On est averti dans plein de passages de la Bible des choses qui vont arriver sur l'Église pour essayer de détruire ce que le Seigneur est en train de bâtir. On le sait, on l'a répété plusieurs fois, ce passage-là, dans Matthieu 16, 18. Le Seigneur, il est venu pour bâtir son Église. Son Église, c'est un rassemblement de tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont sauvés. C'est son Église, puis pour lui, elle est précieuse, son Église. Ça le dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, le fait de savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu béni. Puis il dit que son Église, les portes du séjour des morts, ne peuvent pas avoir le dessus contre elle. Sauf que, comme que ça, on peut sous-entendre en interprétant ce texte-là, que son Église va être victorieuse sur le séjour des morts. Ça veut dire que le séjour des morts ne gardera pas son Église captive dans la mort. Les chrétiens vont ressusciter puis vont être avec le Seigneur éternellement. La victoire est là. Il dit son Église, elle sera pas. Le séjour des morts n'aura pas le dessus sur elle. Mais ici, son Église est avertie sur la terre, dans d'autres passages, qu'elle va se faire rentrer dedans, sous tous les bords, pour essayer d'être démolie par l'ennemi. On a un adversaire, puis c'est le diable. Puis il n'est pas tout seul, il y a plein de démons de toutes sortes. Des démons qui sont là avec des tentations, des démons de tourment, des démons d'accusateurs, des démons qui sont là pour essayer de détruire ce que Jésus est en train de bâtir. Ils cherchent à détruire ce que Jésus est venu construire. Puis pas qu'un qui est venu construire, c'est qu'il déjà bâtiré, donc il est encore en train de la bâtir. Mais il y en a un qui travaille pour essayer de démolir au fur et à mesure ce que Jésus essaye de bâtir. Il essaye de bâtir son Église. Dans Jean 10:10, il l'a expliqué, le Seigneur. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, c'est voler. Il veut voler les chrétiens, il veut voler ceux qui ont les promesses de Dieu. Il veut nous égorger, puis il veut nous détruire. Il veut détruire ce que Jésus est en train de bâtir. Jésus, quand il prend une brebis, là, il la change de camp, puis il commence un œuvre de changement, de transformation pour l'amener comme lui, mais le diable veut le détruire pour le rétrograder, puis le ramener comme qu'il était avant. Le diable fait tout pour contrefaire qu'est-ce que Jésus veut faire, ou qu'est-ce que Jésus a déjà fait. Les choses avancent pendant des années, puis à un moment donné, oups, t'entends un tel qui a lâché le Seigneur, puis il est rendu dans le monde. Il a été détruit, il a été volé, il a été détruit, il a été tué. Parce qu'il y en a qui perdent la foi carrément, puis mettent leur foi dans d'autres choses. Ils sont perdus. Il n'y a plus rien, à moins qu'ils se repentent à nouveau, puis qu'ils reviennent, là. Comme ça dit dans la parole, celui qui ramène un frère de la voie où s'est égaré, il sauve un homme de la mort, puis il couvre une multitude de péchés. Il y a des gens qui se sont égarés. Puis là, il faut prendre garde de nous faire voler et ou se faire dévorer par le lion et les loups. Dans 1 Pierre 5, 8, ça nous parle du lion, là. Soyez sobres, veillez. Là, il y a des avertissements donnés à ceux qui doivent faire partie des promesses éternelles de Dieu. Il nous dit à nous, là, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais là, on parle dans ce passage-là du lion, mais il y a d'autres passages qui nous parlent des loups qui sont là. On va voir des passages là-dessus. On n'est pas à l'épreuve de tout par nous-mêmes, par tout seul, là, de même, sans faisant pas attention. Il faut vraiment veiller, faut faire attention pour pas tomber dans les pièges que cet ennemi-là ou ces ennemis-là font à l'Église. Le titre, c'est pour ça, prendre garde aux ennemis de l'Église. Jésus, son fruit, là, son résultat de son travail, c'est que l'Église est là puis elle continue à s'accroître. C'est son Église qui va demeurer éternellement. Puis cette Église-là, en attendant, doit faire attention dans son cheminement. On a-tu déjà médité sur comment le diable y réussit à voler, à égorger, à détruire, à dévorer? Comment est-ce que le diable peut faire ça dans la vie d'une personne? Pour réussir à enlever toutes les promesses, toutes les ce que Jésus a fait dans la vie, parce que quand on a accepté le Seigneur, c'est avec joie qu'on l'a accepté. On était content, on venait d'acquérir la confiance, l'assurance qu'on a la vie éternelle à cause du Seigneur. On est pardonné de nos péchés. On apprend là, ces choses-là quand on se convertit. Puis on est heureux, on a une joie. Il y en a qui... Tu sais, ils n'étaient plus capables de s'arrêter de le dire aux autres tellement qu'ils sont contents. Qu'est-ce qui peut arriver que le diable, le lion ou les loups peuvent faire pour attaquer quelqu'un au point d'enlever tout ce qu'il a eu dans ses pensées comme semence depuis le temps qu'il l'a reçu, puis il avait la joie, puis il a reçu des informations par les enseignements en lisant la Bible, puis en méditant, puis en allant à l'église pour entendre des messages qui viennent de la parole de Dieu. T'es supposé d'être fortifié puis devenir un solide dans le Seigneur. T'es plus un enfant à flottant à tout vent de doctrine. T'es supposé être un homme à la stature de Christ, puis qu'à quelque part, là, le diable, il a mêlé tellement cette personne-là, là, que là, la personne ne croit plus à ce qui faisait sa joie, puis elle s'accroche plus à ce qui était à ses promesses-là, puis que pour elle, ça compte plus, puis elle est rendue égarée, là, qu'elle a peut-être mis sa foi en d'autres choses, en ayant rejeté tout ce qu'elle avait reçu. Qu'est-ce qui s'est passé entre là puis là, là, entre ce moment de l'avoir reçu puis le moment où ce qui est rendu perdu, là, égaré, une brebis égarée, en dehors du troupeau que le diable a pogné par le cou, là, le lion, comme il pogne la brebis égarée, là, puis il l'a charrée, puis ça va finir de la bouffer. Il cherche comme un lion rugissant qui va dévorer. Faut pas négliger ça. Faut pas penser qu'on est à l'épreuve de ça, vu que c'est Jésus, les apôtres, nous ont enseigné ces choses-là pour qu'on fasse attention. Il n'y a pas qu'un verset qui en parle. Il y a plusieurs versets. On va en envoyer quelques-uns. Pour nous mettre sur nos gardes qu'il y a des ennemis qui sont là contre l'Église. Ils veulent pas que vous soyez dans l'Église du Seigneur. Ils veulent pas que vous restiez persévérants à rester fidèles à votre Église pour servir le Seigneur dans l'Église que le Seigneur est en train de bâtir, puis de travailler avec le Seigneur pour bâtir son Église. Jésus dit qu'il n'assemble pas avec moi disperse. Si t'es pas avec Jésus en train de rassembler, t'es où? Il y a des idées qui nous viennent dans la tête, parce que le diable commence au haut par des idées. Judas, là, ça commence par une idée, l'idée de livrer Jésus. Parce qu'il aimait l'argent, puis le diable le savait qu'il aimait l'argent. Il a juste shooté dans l'idée, « Hey, tu pourrais vendre Jésus, puis tu vas te faire de l'argent. » Puis finalement, il a décidé d'obéir à cette idée-là, qui venait de qui? Ça venait de celui qui voulait le dévorer, puis il a été dévoré. Puis c'est à prophétiser que ça arriverait, puis c'est arrivé. Si ça, c'est, on l'a vu dans la Bible, puis on l'a lu, puis on le sait que c'est vrai, là, on sait que c'est arrivé, c'est un, le diable l'a dévoré. Si plus on est averti de faire attention, ça peut être nous aussi qui se fassent dévorer. Faut être des gens solides quand on voit venir un loup ou venir le lion, d'être capable de lui résister. Résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Ceux qui se sont fait bouffer, c'est parce qu'ils n'ont pas résisté. Pourquoi ils n'ont pas résisté? Soit qu'ils pensaient pas, ils savaient pas, ils ont laissé rentrer des petites affaires, puis c'est devenu de grosses affaires dans leur vie, comme Judas. Il faut étudier puis se rappeler les stratégies de l'ennemi afin qu'on garde cap dans l'obéissance au Seigneur. Tous les chrétiens ont gardé le cap dans l'obéissance du Seigneur. On s'est repenti pour commencer à obéir. On s'en va par là, là. On suit le Seigneur. On est à sa suite. Mais il faut se rappeler des stratégies du diable que Jésus ou les apôtres nous enseignaient pour pas se faire bouffer en chemin. Parce que Jésus est capable de nous garder en autant qu'on reste là, parce que si on écoute les autres voix de mercenaires, de ceux qui sont pas les vrais propriétaires des brebis, puis on se met à suivre ces mercenaires-là, puis ils nous emmènent dans l'égarement. Mais là, écoute bien. Il faut savoir les ruses du diable, puis être capable de résister, de le voir venir, mais de résister. Dans 2 Corinthiens 2:11, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, c'est ses manœuvres, ses plans, ses stratégies pour essayer de nous faire tomber. On n'ignore pas ses plans. Son but, c'est de vouloir détruire l'Église. On est averti par le Seigneur. Puis détruire l'Église, ça veut dire qu'il essaye de nous détruire. S'il voit un moyen d'accès dans nos vies pour essayer de venir nous faire chuter, nous faire débarquer, il va essayer. Les tentations sont là pour tous les chrétiens. Il peut pas dire « Oh, moi, je suis jamais tenté. » Voyons, c'est impossible. Là. C'est parce que tu n'en es pas rendu compte, c'est quoi une tentation. Les mêmes tentations viennent à tous les frères dans le monde, que ça dit dans un verset. Puis tout le monde va subir des attaques de toutes les façons, pas juste de la tentation, ça c'est une attaque, mais il y a d'autres choses, d'être mêlé par des fausses doctrines, ça en est une autre. Les convoitises, là, les choses du monde, les plaisirs qui nous débarquent du Seigneur, là, il y en a plein. Mais il dit, on ne faut pas laisser l'avantage au diable sur nous. S'il nous dit ça, ça veut dire que ça allait arriver que des chrétiens ont resté le diable lui mangeant la laine sur le dos. On n'ignore pas ses desseins, on le sait, sauf que des fois on les oublie. On oublie que ça peut être une attaque, ça peut être une tentation, une épreuve qui vient du diable. Il y a plusieurs avertissements sur les différentes ruses du diable pour influencer des disciples à sortir de l'Église du Seigneur. Est-ce que Jésus bâtit son Église? Puis quand on est rentré dedans, il est en train de bâtir encore son Église. Il a fait de nous une des pierres de son Église. On est dans son Église. Puis là, le diable va tout faire pour essayer de nous faire débarquer de là. Dans Actes 20, le verset 29, l'apôtre Paul avait donné l'avertissement des pasteurs et des dirigeants dans une Église. Il dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèveront au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Deux avertissements dans ce passage-là. Puis les deux, ça parle au milieu de vous en parlant de cette église-là. Cette église-là, Paul, il dit, après que je sois parti, là, il est en voyage missionnaire, il a rassemblé tous les anciens de cette église-là, les pasteurs, les enseignants, les diacres, il les a rassemblés sur la plage, puis là, ils ont prié ensemble, puis il leur a donné des dernières recommandations, puis il a dit, aussitôt que je vais être parti, il y en a au milieu de vous qui vont se lever pour enseigner des choses pernicieuses, puis il y en a d'autres qui, ça dit, il va y avoir des loups cruels dans le troupeau qui épargneront pas le troupeau. Lequel troupeau? Le troupeau qui est l'église de cette place-là. Ce verset-là n'était pas juste pour l'église de cette place-là. C'est autant pour l'église de Beauharnois que pour toute chaque église. ils doivent se sentir avertis par ce passage-là qu'il y a des loups qui sont là, qu'ils vont essayer de s'infiltrer dans l'Église, puis il y en a d'autres dans l'Église qui vont se mettre à enseigner des choses pernicieuses. C'est quoi le mot pernicieux qu'il y a là dans la Bible? Le mot pernicieux qui est là dans ce passage-là, c'est déformé, des choses détournées. Ils vont s'opposer, ils vont comploter, faire des complots contre le plan de Dieu, contre le plan du salut. Ils vont se détourner du droit chemin, ils vont pervertir, ils vont corrompre le chemin. Ça veut dire qu'ils vont enseigner des affaires qui n'ont pas rapport avec ce qui est écrit dans la parole. Par des mauvaises, peut-être, par ignorance, peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils enseignent des faussetés, mais ils vont se mettre à enseigner des faussetés, puis ils vont essayer d'entraîner les disciples avec eux. C'est ça que ça dit dans ce passage-là. La fin, c'est pour entraîner des disciples après eux. Fait qu'il peut s'élever des gens dans l'Église avec des doctrines qui sont pas bibliques, puis là, ils essayent de convaincre les autres pour les sortir de l'Église, pour les entraîner avec eux. Puis ça n'est une manœuvre du diable. Puis quand le diable réussit à faire croire à quelqu'un que sa doctrine qu'il est en train de faire, qui est différente avec la doctrine qui est enseignée, là, que sa doctrine à lui, le gars il croit tellement qu'il essaye de convaincre les autres pour soulever des gens de l'Église, les faire sortir, puis partir sa propre petite affaire. C'est grave, là, rendu là, là. Il est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres points aussi qui nous sont enseignés comme d'autres manœuvres. Il faut prendre garde aux paroles de prophètes qui cherchent à nous éloigner de la vérité. Dans Matthieu 7, 15, Jésus a dit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Encore l'idée de ravir. Les loups, c'est encore l'idée de ceux qui vont s'introduire dans le troupeau, mais ils viennent pour voler. Qu'est-ce qu'un faux prophète va essayer de voler? Il va essayer de voler la confiance des brebis pour les amener à croire en le mensonge qui va faire que ça va tout mettre de la brouille dans l'Église. Ça va détruire l'Église. Il n'y a pas juste au niveau des prophètes. Il y a d'autres types d'avertissements qui sont donnés dans la Bible sur justement les choses qui peuvent se dire, qui vont encore troubler, puis essayer de démolir, s'ils peuvent réussir à disloquer la pensée de quelqu'un contre les autres dans l'Église, pour que les personnes décident, « Ah ben moi, je suis plus capable de les sentir, moi, il faut que je sorte de là. » Quand il réussit à faire ça, il a réussi à sortir. Puis il y en a des gens qui n'ont jamais retourné dans une église parce qu'ils sont sortis de l'église, ils ont vécu quelque chose là, de négatif, puis là, ils n'ont pas été capables de passer par-dessus puis de pardonner. Parce que ça peut arriver qu'il arrive des affaires qui nous blessent. Mais le Seigneur, il bâtit son église, puis il nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. C'est écrit que... faut que tu restes dans l'Église du Seigneur. Ou peut-être que là, il peut t'appeler à aller ailleurs, mais va dans une autre Église. Tu peux pas rester chez vous, c'est pas de Dieu. Dieu veut qu'on soit un solide assemblage en tant que chrétien, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse travailler ensemble. Il faut prendre garde aux paroles des moqueurs qui ridiculisent les enseignements de la parole. Parce qu'on est averti aussi qu'il y aura des gens qui se moquent de la Bible, qui vont rire de qu'est-ce qu'on fait quand on parle qu'on a la foi en Jésus, puis ça peut décourager les chrétiens au point de dire, « Ah, mais là, je veux pas faire rire de moi », puis ils vont lâcher de suivre le Seigneur. Ça nous dit dans 2 Pierre 2:3-3, « Sachant avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant, « Où est la promesse de son avènement? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Là, ils vont se moquer, dire, « Est-ce que Jésus est pas, il revient pas, là? » Le temps, ça fait 6 000 ans qu'il y a du monde sur la terre, puis que là, ils peuvent dire n'importe quoi, là, pour essayer de te mettre des doutes dans ton esprit. pour essayer de te décourager, pour essayer de t'amener à que tu te sentes plus voir, ouais, c'est-tu vrai la Bible, ça arrive pas, ou même peut-être ils vont rire de toi parce que tu attends un exaucement de prière, ou ils vont rire de toi, tu penses d'aller au ciel, puis ils vont dire qu'il n'y en a pas, que l'enfer est sur la terre, puis que tout le monde va aller au ciel, ou tu sais, toutes les menteries que le monde peut dire, ceux qui se moquent de la vérité. Parce que les moqueurs, sont contre Dieu, ces moqueurs-là. On parle de gens qui croient pas ce que Dieu a dit, puis essayent de rire de ce que Dieu a dit. Jésus a pas ri sur la parole de Dieu qui était écrite. Il dit, ces paroles-là, elles demeurent éternellement. Puis c'est ces paroles-là, les seules qui sont là, puis les siennes que lui a prononcées, qui vont juger le monde à la fin. C'est les paroles de Dieu. Puis les moqueurs se lèvent pour rire de la parole, puis essayer de t'entraîner à débarquer d'être chrétien parce que toi, tu y crois, mais ils essayent de t'humilier, puis ils essayent de te débarquer. Il y a un autre point qui est semblable aux faux prophètes, que ça nous dit aussi dans la parole, il faut prendre garde aux paroles de ceux qui prêchent des paroles non bibliques, qui sont pas écrites. Il n'y a pas de verset qui appuie ce qui est dit. Puis ça, il y en a-tu de ça? Il y en a plein de ça, des enseignements. T'écoutes les vidéos sur Internet, là. Il y en a plein de monde qui disent leurs rêves, ils disent leurs idées, ils disent ce qu'ils ont entendu d'un autre, mais ils n'ont pas de verset qui dit ce qu'eux autres affirment. Fait que quand tu affirmes des choses, il n'y a pas de verset qui dit ça, tu es en train de parler de ton propre chef, de ta propre autorité, de ta propre opinion, puis tu peux être en train de dire des choses qui sont pas dans le plan de Dieu. 2 Pierre 2, ça nous dit au verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Des docteurs, c'est des enseignants. Puis ils vont introduire des sectes pernicieuses. Puis ils vont renier le maître qui les a rachetés, puis ils vont tirer sur eux une ruine soudaine. Ça, là, les faux prophètes, là, pour renier, ils n'ont pas besoin de dire « Je crois pas en Jésus », pas besoin de dire ça pour renier. Tu as juste à dire le contraire de ce que Jésus a enseigné, tu es en train de renier ce qu'il a dit. Tu es en train de renier ce que Jésus essaye de bâtir. Parce que tout ce que Jésus et les apôtres ont mis, c'était pour bâtir son Église. Tout ce qu'on a par écrit, c'est du noir sur blanc, c'est là, c'est du vrai, c'est du éternel, c'est la vérité. Tout ce qui est moqueur ou personne qui enseigne des choses contraires à ce qui est là, sont en train de rejeter Jésus. Dire à Jésus qu'il avait tort, ou dire à Jésus qu'il connaît pas son affaire, même les apôtres. Puis qu'est-ce que ça dit quand tu enseignes des faussetés? Il dit, ils vont tirer sur eux une ruine soudaine. Puis là, ça dit, ou dans ce texte-là, il y aura parmi vous des faux docteurs. Ça veut dire, c'est du monde de l'Église qui vont se mettre à prêcher des affaires de même. C'est du monde, peut-être, ça fait un an qu'ils sont pas au milieu de vous, peut-être, ça fait 20 ans qu'ils sont au milieu de vous, puis ils se mettent à enseigner des faussetés. Il y en avait dans ce temps-là, Paul il en a corrigé plusieurs points de doctrine que les églises avaient dans ce temps-là, mais aujourd'hui, il y en a encore beaucoup des points de doctrine qui sont pas de versets, mais c'est beaucoup de spéculation, puis là, il affirme des affaires contraires au plan de Dieu. Là, c'est pas moi qui va juger toutes ces affaires-là, mais il faut toujours, quand on affirme quelque chose, qu'on aille le verset pour appuyer. Dans le verset 2 de ça, il dit « Plusieurs les suivront dans leur dissolution. » Ça veut dire, les gens sont crus, prêchent des nouvelles affaires, sont pas écrits dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui vont adhérer à ce qui est prêché puis qui est pas écrit. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Puis là, le troisième point qu'il rajoute, il y en a d'autres, il dit « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. » Là, ça parle cupidité dans le sens que la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Ils vont prêcher des affaires faisant séduire aux disciples qui vont devenir riches puis prospères parce qu'ils suivent la parole de Dieu. On a-tu déjà entendu des affaires de même? Je nomme pas de nom. C'est juste... C'est vrai que la foi, la vérité est une source de gain, mais avec le contentement, comme ça dit aussi d'un autre verset. On n'a rien amené quand on est venu dans le monde, puis on va emmener rien quand on va partir. Puis si on a quelque chose dans le cours de route, merci Seigneur, mais c'est pas parce qu'on est ici pour acquérir, comme ça sera le but de devenir tous riches. Mais la cupidité, c'est un péché dans la Bible, il s'est appelé une idolâtrie. C'est appelé mammon. C'est la richesse. Puis l'amour de la richesse, je te dis pas que tu peux pas en avoir de la richesse. Je te dis l'amour de la richesse, c'est un péché. C'est de l'avarice, c'est de la cupidité. Il dit, par cupidité, ils vont trafiquer de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils vont essayer de t'embarquer dans leur fausse doctrine pour t'amener dans un chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur. Puis lui, l'apôtre Pierre, il mange pas ses mots, ça dit « eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point ». Eux autres, dans ce temps-là, ils étaient tranchants. Il dit carrément qu'ils sont perdus puis sont déjà condamnés, ceux qui cherchent ces voies-là. Le mot pernicieux, dans ce verset-là, c'est le même mot en français que l'autre verset, mais il n'y a pas le même sens. Quand il dit, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Des sectes, là, c'est des regroupements. Séparés des autres. Faire des petits clics dans les églises, là. Des fois, il y a des petits clics, le monde s'entretient de certains versets qui sont contraires à ce qui est enseigné dans l'église. Puis là, ça bâtit ensemble une petite clique, mais ça s'appelle ça une secte. Être une secte, c'est sectaire, c'est être retiré des autres, un petit groupe retiré des autres. Pernicieux, parce que c'est une secte pernicieuse, le mot pernicieux dans ce verset-là n'a pas le même sens que l'autre que j'ai lu tantôt. Là, ça veut dire destruction, perdition. Ça veut dire que c'est des sectes qui conduisent le monde à la perdition, pourtant ils sont dans l'Église. Quand tu penses qu'il peut y avoir des regroupements de gens dans l'Église qui s'entretiennent de fausses doctrines, sont en train de se perdre. Si on continue avec d'autres idées, il faut prendre garde aussi aux paroles de ceux qui provoquent des divisions. Parce qu'il y en a que c'est leur division, c'est juste en critiquant. Critique. Les sujets, critique de un qui, mettons, il critique le pasteur. Tu veux, lui, il est habillé avec des t-shirts. J'ai entendu celle-là. J'ai entendu une prêche de quelqu'un qui dit, il prêche avec une chemise karaté. Moi, j'en mets souvent des chemises karaté. Je me suis senti visé. Mais ça m'affecte pas. Parce que ça, le standing d'aujourd'hui, dire il faut que tu aies un habit puis une cravate, c'est correct, je respecte ça s'il veut en mettre une, moi je suis pas obligé. Jésus avait toujours la même tunique sur le dos puis les apôtres avec. Puis Jean-Baptiste a dit, si t'en as deux tuniques, donne-en une à celui que t'en as pas. Ça veut dire que c'était la même tunique pour aller travailler dans la semaine que d'aller au temple la fin de semaine. Des histoires que faut tout ça y habiller... Ça, là, c'est une critique inutile. Puis là, ça crée une division à cause de ça, parce qu'il y en a qui vont dire, « Lui, je ne parle plus, ce chrétien-là, il a une chemise karaté à l'église. » Ou un T-shirt. C'est grave. C'est comique, parce que là, c'est ce sujet-là, mais là, s'il prêche, s'il y a un sujet qui est enseigné avec des versets, puis tout, puis l'autre, il critique, parce que lui, il veut ça autrement, puis en plus, il détruit, puis il crée une division dans le corps, puis il essaye de faire des groupes, puis tout ça, c'est écrit. Il y a un verset qui en parle de ça, dans Jude 1, 18. Il dit, Il disait que les prophètes, qui disaient que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pourquoi que Jude dit que ces gens-là, c'est des hommes sensuels, ceux qui provoquent des divisions? C'est des gens qui n'ont pas l'esprit. Parce que l'Esprit de Dieu cherche à bâtir l'Église. Cherche à rassembler les chrétiens pour qu'ils soient un, pour qu'ils soient un solide assemblage, comme Jésus l'a enseigné. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. La minute qu'on prononce des paroles qui ne rassemblent pas comme ça, on est des paroles qui essayent de casser ce que Jésus est en train de faire. Ce que l'Esprit est en train de faire. Fait que quand la personne est en train de critiquer puis d'essayer de tasser, de diviser les églises, là, puis à parler contre, puis ça ne doit pas être dans la bouche d'un chrétien, sinon c'est des paroles charnelles, même diaboliques. On se demande où sont les plans du diable pour essayer d'amener quelqu'un à se perdre. Mais ça, c'est des affaires de même. Même rapporter les choses que hey, t'as pas entendu ce que l'autre a fait. Ça, là, c'est calomniateur ou de la médisance. C'est l'œuvre du diable, carrément. Faut arrêter ça aussi. La minute qu'on embarque là-dedans, c'est dans le but de soulever des gens contre quelqu'un. C'est pas de Dieu. Ça devra jamais être dans la bouche d'un chrétien. On doit des paroles qui servent une édification, une bénédiction, qui servent à construire, qui servent à rassembler, à bâtir avec Jésus. Jésus dit, qui n'assemble pas avec moi disperse. Nos paroles rassemblent-tu ou nos paroles dispersent? Son travail avec le Saint-Esprit, il faut faire bien attention d'avoir les paroles alignées dans la même direction que qu'est-ce que Dieu a déjà dit. Sinon, on va se faire traiter de personne charnelle, sensuelle, c'est qu'elle marche dans ses sens, puis peut-être qu'en cherchant à rabaisser les autres, elle cherche à s'élever. Il y en a qui manquent de... dans la psychologie, ils disent, les gens manquent de valorisation, là, puis pour se sentir valorisé, il faut qu'ils abaissent les autres. Tu regardes les bibites que dans les autres. T'as pas besoin, on a toutes faites pareil. Moi, j'en ai des bibites, je vous le dis tout de suite, puis tout le monde en a des bibites, je vous le dis tout de suite. On est tous des pécheurs sauvés par grâce. Pas parce qu'on était bon qu'on était sauvé par une grâce. Il est obligé de nous sauver par grâce parce qu'on n'aura jamais pu être assez digne de mériter le salut. Personne. Notre dignité vient pas de nous, elle vient du Seigneur qui nous la donne par la foi. On est victorieux à cause de notre foi. Une autre technique du diable, c'est de soulever les uns contre les autres pour créer une division en enseignant des faussetés. C'est un peu un résumé de qu'est-ce que les autres points, là. Mais le point, là, vous allez voir, c'est encore plus fort de la manière qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2. La Bible nous dit qu'il y aura beaucoup d'antichrists. Ce sont des gens qui sont contre le Christ, puis ils s'en rendent même pas compte. Dans 1 Jean 2,18, ça nous dit, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, puis qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là, nous savons que nous sommes à la dernière heure. Là, il disait que dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'antéchrists. Mais dans le texte, c'est pas dans le grec, c'est pas antéchrist, c'est antichrist. Le vrai mot. Hanté, ça voudrait dire avant le Christ. Mais là, le texte, c'est des contre le Christ. Antichrist, c'est d'être contre le Christ. Il dit, dans ce verset-là, il y a maintenant plusieurs antichrists, des gens qui sont contre le Christ, sont contre ses enseignements, sont contre l'œuvre que Dieu est en train de faire à travers le Christ. Puis qu'est-ce qu'il nous explique dans Jean, juste le verset après? Il dit souvent que les antéchrists, les antichrists, sont souvent des gens sortis de l'Église. Oh! Dans leur rébellion à Dieu, ils cherchent souvent à entraîner les autres. Dans 1 Jean 2,19, qui est juste l'autre verset après, il dit, « Ils sont sortis du milieu de nous. » Des gens qui critiquent l'enseignement du Christ puis qui sont contre le Christ, mais des fois, ils s'en rendent même pas compte. Ils prêchent des faussetés, affirmant des choses, puis ils essayent de diviser, c'est sûr, en même temps. Puis il y en a beaucoup des antichrists. Puis comme je vous le dis, ils sont au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il se manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est quand quelqu'un part ses nouvelles pensées, puis qui sont anti-bibliques, il est soulevé par un esprit d'être contre le Christ, puis il s'en rend pas compte. Puis là, il va pas à l'église, il essaye de... Puis là, il dit, sont sortis. Il était du milieu de nous, mais il sort. Il y a un esprit qu'ils ont entraîné à sortir. Tout à l'heure, je lui ai posé la question, on le voit-tu venir le loup? On voit-tu venir le lion qui va venir essayer de nous dévorer? Puis comment est-ce qu'il nous dévore? En nous shootant des faussetés. En nous faisant croire que ces faussetés-là sont vraies, au point qu'on commence à créer des divisions, au point même de sortir de l'Église, parce qu'on n'est plus capable de sentir ce qui se passe dans cette Église-là, parce que celle-là prêche la Bible, puis là, lui, il y a des points là que ça ne rentre plus avec. Mais c'est un esprit d'antichrist qui est en train d'agir. Ça dit dans le texte que s'il était vraiment de nous, de notre groupe, des vrais disciples, eux aussi, ils seraient restés parmi nous. Peut-être qu'ils vont réaliser un petit peu plus tard, puis qu'ils peuvent être convaincus, tant qu'une personne est vivante, il y en a qui étaient des prêtres de d'autres religions, puis qui ont finalement abandonné pour se devenir un chrétien qui suit Jésus. Ou il y a des chrétiens qui ont abandonné pour sortir, puis il y a un moment donné, ils reviennent, parce qu'ils réalisent que c'était vrai, tu sais, mais... Tant qu'on faut pas critiquer, faut pas les juger, on regarde les gens aller, on le sait que le diable il est en train d'envoler du monde, puis il est en train de les détruire en lui faisant croire dans leurs pensées des idées non bibliques. Puis là, ils s'attachent à ça au point de sortir de l'Église. Ils sont piégés.
Il y a 50%.
Ouais, ça c'est ceux qui sont endormis en plus, ça c'est un autre problème, mais c'est un moment donné, on va en parler. C'est sûr que c'est là aussi. En se soulevant contre l'Église du Seigneur, il se soulève contre les enseignements du Seigneur. Parce que ceux qui disent pas besoin d'aller à l'Église sont déjà séduits, parce que ça le dit dans la Bible d'y aller. Les disciples, ils vont, ils ont toujours été, puis les disciples fidèles sont encore là. Puis tu regardes dans l'Apocalypse, les 7 églises qui étaient des églises un peu plus tard, c'est encore des églises qui appartiennent au Seigneur, mais il se passe des affaires des fois que c'est pas correct là-dedans, mais c'est quand même l'Église du Seigneur. Les 7 églises, il y tenait dans sa main, même s'il y en a là-dedans qui avaient perdu le nord. Il y en a même là-dedans un qui se fait dire qu'il est mort. Puis un autre qui va se faire enlever du livre de vie s'il se repente pas. Mais c'était quand même les 7 églises puis les 7 étoiles, ils étaient dans la main du Seigneur, mais ils se perdaient, ils étaient en train de se perdre. Ils ont reçu les avertissements du Seigneur pour corriger leur enseignement ou corriger leur manière de vivre. Amen. Sur les 7 églises, il n'y en a que 2 qui reçoivent des paroles positives. Les 5 autres se font critiquer par le Seigneur avec des avertissements assez graves. Mais c'est quand même l'Église du Seigneur. Fait que quelqu'un qui dit, « Oh, ben moi, cette Église-là, j'ai vu telle affaire, puis là, moi, je veux plus y aller, puis je veux plus aller dans aucune Église. » Écoute bien, des Églises parfaites, il n'y en a pas. Puis la minute que vous allez trouver une Église parfaite, puis que vous rentrez dedans, elle va devenir imparfaite. Ça veut dire que faut arrêter de checker bibite. Faut croire qu'est-ce que Dieu est en train de faire, puis Il cherche à rassembler, à unir, à nous fortifier, à nous bénir, qu'on soit heureux ensemble, puis qu'on soit gardés ensemble, protégés. Quand tu gardes la foi, puis tu restes saisi ensemble, à s'accrocher ensemble, puis on s'encourage, tu te la gagnes, ça va être bien plus dur d'abandonner. Le diable va falloir qu'il travaille fort pour pouvoir réussir à en sortir un quand il y a un solide assemblage comme ça. Le Seigneur nous avertit que le diable va aussi utiliser les épreuves contre l'Église pour pousser les chrétiens à sortir de l'Église, à se haïr, à se trahir, à pécher, puis à se refroidir. Il a tout expliqué ça dans Matthieu 24. Il parle dans l'Église à ce moment-là, à ceux qui ont la foi. Puis il faut prendre garde à ça, à la persécution qu'il pourrait y avoir, ou des choses, des pressions gouvernementales, ou des affaires qui frettent pour essayer de troubler l'Église. Il faut que l'Église reste unie, puis elle reste ensemble, puis elle continue à vivre dans la charité, puis elle est en sanctification, malgré toutes les pressions qu'il pourrait y avoir dehors. Dans Matthieu 24, le verset 9, ça dit, en parlant aux chrétiens, « On vous livrera au tourment. » On vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Cette pression-là vient du monde, puis elle vient du diable qui met ça dans le cœur du monde pour mettre ça contre l'Église. Peut-être ici au Québec, on n'en vit pas gros, mais on en veut un peu. Mais dans d'autres pays, c'est bien plus pire que ça. Il y en a qui se font assassiner, des chrétiens. Les églises se font démolir. La pression est forte, puis Jésus nous a avertis que ça pourrait arriver. Que ça va arriver. Puis là, ça dit, là, il parle encore à l'Église, alors plusieurs succomberont. À cause de la pression, à cause des persécutions, à cause des problèmes que l'Église est en train de vivre, il y en a qui succombent. Ça veut dire qu'ils lâchent, qu'ils abandonnent, ils se détournent, ils veulent plus suivre, ils veulent plus être là. Pas juste qu'ils vont succomber, ils vont succomber, puis ils vont se trahir, puis ils vont s'haïr les uns les autres, entre chrétiens. Il est en train de parler aux chrétiens, là. Se trahir. Oh, là, mettons qu'il y a une pression gouvernementale, là, puis le gars, il débarque, il est plus capable, là, il veut plus s'afficher comme chrétien, puis là, il cherche des chrétiens quelque part, puis le gars, il y en a là-bas des chrétiens, puis lui, il est allé en gang avant, mais il a lâché, puis là, il dénonce les autres, il est en train de trahir les autres chrétiens. C'est sûr que ça allait arriver, ça, c'est Jésus qui a dit que ça l'arriverait, c'est déjà arrivé. Des temps de persécution, où ce que des chrétiens rétrogrades ont dénoncé les autres. Ça peut arriver encore aujourd'hui. Puis ça dit le fait qu'ils se trahissent, ils vont s'haïr les uns les autres entre chrétiens. On le sait qu'il faut vivre la charité, il faut vivre l'amour du Seigneur, là. Mais quand t'es rendu que les chrétiens se sentent plus les uns les autres, sont plus capables de se sentir, ils s'haïssent, ils s'aiment pas. Comment est-ce que l'unité de l'esprit peut être là? Impossible. C'est une église qui est rendue bien défaillante. C'est pour ça qu'il faut jamais laisser rentrer un petit brin de haine contre un autre chrétien. Jamais. Si tu es en train de pas aimer un chrétien, tu es en train de pas aimer Jésus. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? T'arrives l'autre bord, puis Dieu a exactement la même face que le frère que t'aimais pas ici. Tu vas-tu avoir les fins? Tu sais pas, là, que Dieu, il dit, si t'as de la haine dans ton cœur pour un chrétien, t'es un meurtrier. Puis il n'y a pas de vie éternelle demeurant dans un meurtrier, que ça dit dans le même verset dans Jean. Puis c'est l'apôtre de l'amour qui nous a dit cet enseignement-là. Un chrétien peut pas haïr un autre chrétien. C'est comme si tu haïs Jésus. Parce que Jésus est dans l'autre chrétien aussi. On n'a pas le droit d'entretenir de haine puis de ressentiment. Il faut toujours se pardonner. C'est de même que aussi on est pardonné. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous le pardonnons. Si tu pardonnes pas à ce frère-là puis tu te mets à l'haïr. Mais ça dit que dans des, que ça va arriver qu'ils vont se haïr les uns les autres. Puis plus fort que ça, plusieurs faux prophètes s'élèveront encore dans l'Église, qui vont se dire chrétiens, des vêtements de brebis, mais c'est des loups. Des faux prophètes qui enseignent des fausses doctrines. Puis ils vont séduire beaucoup de gens. Faut toujours être sur nos gardes de ce qu'on entend. C'est-tu écrit? S'il n'y a pas de verset, on n'embarque pas là-dedans. Ou si le verset nous semble tordu, parce que des fois, ils veulent tellement en mettre qu'ils prennent un verset qui ne dit pas vraiment ça, mais ils disent qu'ils en mettent plus pour essayer de démontrer autre chose. Puis ils parlent d'un autre sujet, ils tordent le verset, là. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Puis c'est encore dans l'Église, ça dit, parce que l'iniquité va sera accrue, parce que là, le péché, quand tu te mets à tailler, puis tout le kit, puis la chicane, la division, puis à cause de la persécution, là, le monde va saillir, le péché va augmenter, il dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que dans l'Église, il n'y a plus d'amour. L'amour du Seigneur, qui est supposé d'être là, là par le Saint-Esprit, n'est plus là, parce que le péché est là. Le péché de la haine, puis des attaques, puis des critiques, puis se traîne en cour, puis de toutes sortes d'affaires là, qui peuvent arriver à cause des conséquences qui m'ont trahi, mais, tu sais, la cause de la persécution, à cause que le diable est en arrière, c'est une de ces ruses qu'il va utiliser, qu'il a déjà utilisé, puis qu'il peut utiliser pour essayer de démolir l'Église. Puis un dernier verset dans le contexte, il dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Malgré tous ces problèmes-là dans cette église-là, il dit, la charité du plus grand nombre va se refroidir, mais il y en a qui n'appartiendront pas la charité dans la gang, qui vont continuer à aimer malgré ces persécutions-là, cette haine-là, ces chicanes-là qu'il va y avoir. Il y a des chrétiens qui vont être encore fidèles dans cette église-là, puis c'est ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui vont être sauvés. Des autres sont embarqués dans un piège du diable, puis il y a des églises qui se divisent, puis ils savent même pas que c'est le diable qui est en train de le faire. Ils se pensent tous spirituels, puis ils s'haïssent. C'est grave quand tu penses ça. Un autre point, il dit, nous sommes avertis de ne pas parler contre les serviteurs de Dieu qui se tiennent debout ou pas, ça regarde le maître. Dans Romains 14, 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Si un chrétien, il est faible dans la foi, là, puis il a de la misère dans sa vie, faut que tu pries pour lui. Faut pas que tu critiques. Si tu le critiques, tu le juges, puis tu le condamnes. Oui, c'est sûr, s'il y a des péchés flagrants, là, ça le dit, dis-le, va avec un autre, puis d'aller, il y a une procédure à faire pour essayer de le corriger en l'avertissant, puis en finalement, s'il écoute jamais, mais de le dire à l'Église pour qu'il soit mis en fraternité. Il y a une procédure. Mais, pour juste jaser pour jaser, puis le monde raconte les faiblesses de l'autre, là, ça c'est de la critique, jugement, puis ça c'est de l'œuvre du diable. C'est de la médisance ou de la calomnie. Puis ça, il dit, t'es qui toi pour juger les autres? Pourquoi? Parce qu'on a toutes fait les mêmes affaires. Si on regarde dans notre vie chrétienne, là, on critiquerait quelqu'un qui a fait une chose, mettons, il fume une cigarette, là. Bon, on a quasiment tout fumé la cigarette, on a tout passé par là, de se faire blâmer ces sujets-là, il y en aurait, on a tous des sujets pour se faire blâmer, puis qu'on était content que le Seigneur nous ait pardonné, puis on est content, il faut être content aussi que le Seigneur va y pardonner, mais qu'il se repente. Mais il faut s'exhorter avec amour quand on a de quoi dire, c'est pas en critiquant pas en jugeant. Comme je vous disais tantôt, toutes les églises ont des imperfections. Il n'y a pas d'église parfaite. Puis la journée qu'on va en trouver une, puis qu'on rentre dedans, elle devient parfaite. On n'en trouvera jamais d'église parfaite. Fait que si on pointille sur les petits points pour critiquer, on est en train d'embarquer dans le piège du diable. Faut se garder de ça. Dieu a fait en sorte que les églises soient diversifiées. Toutes les églises ont des manières de voir, un alignement pour la mission. Ils ont des différentes onctions, différentes visions, là, c'est donné par le Seigneur. Il y a des églises qui sont axées vers aider les pauvres. Un autre, c'est l'évangélisation directe. Un autre, c'est on s'édifie, puis on se bénit, puis on cherche à prier pour être délivré. Toutes les églises ont des manières de voir, mais des ministères différents. Puis que c'est pas là, c'est pas différent pour qu'on critique, c'est différent pour offrir à tout le monde les différentes choses que le monde a besoin. Puis c'est Dieu qui fait ça, c'est pas nous autres qui décident. Un pasteur que lui, sa manière de prêcher est toujours enlignée dans l'évangélisation, essaye pas de le changer, pas sa passion, mais c'est sa manière de conviction qui voulait qu'il faut travailler à l'évangélisation. Même si je critiquerais ça, ça fait partie des points bibliques, comme autant des pauvres, autant aussi de chercher à prier pour les être délivrés ou être guéris ou être remplis du Saint-Esprit. Toutes les églises ont des manières différentes d'œuvrer. C'est Dieu qui fait ça. Puis si on est insatisfait de notre assemblée, on doit premièrement prier. Ensuite, se laisser guider par Dieu pour trouver notre place. Dans cette église-là ou ailleurs, mais il faut trouver une place dans une église. On peut pas être un chrétien déconnecté de l'église. Ça existe pas. Pas dans le plan de Dieu. Tous les enseignements que j'emmène depuis des semaines, c'est à peu près 25 messages que je vous prêche sur l'église dans différents sujets. Ça a tout rapport parce que c'est le message principal de la Nouvelle Alliance. Sa future épouse, c'est l'Église. Puis il a tout axé les enseignements pour bâtir l'Église. Parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Je finis avec un dernier verset. Demeurons dans le chemin étroit. Écoutons l'avertissement du Seigneur. J'ai capté de quoi quand que j'ai lu ce verset-là? On l'a lu souvent. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux chemin qui mène à perdition, puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Ça veut dire que là, on fait tous face à un choix. Quel chemin qu'on veut suivre? Tout le monde. On veut-tu rentrer dans le chemin large? Qu'il y a beaucoup de monde qui font ça. Oui, il y a beaucoup de monde, mais c'est-tu le chemin du Seigneur? Le chemin du Seigneur, c'est qu'est-ce qui est enseigné noir sur blanc. Entrons là-dedans, puis qu'est-ce que j'ai aimé? C'est de voir le verset juste après ce qui est écrit là. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Rentre dans le chemin étroit, parce qu'il y en a un large pas un étroit, mais garde-toi des faux prophètes. Pas pour rien qu'il écrit ça juste à la suite de ce verset-là. Parce que les faux prophètes vont essayer de te détourner du chemin étroit. Restons dans ce qui est écrit là. Restons fidèles jusqu'à la fin, peu importe la pression, peu importe les attaques, peu importe tout ce que le diable va essayer de faire. On reste là, dans le Seigneur, dans son Église, on ne loge pas. Amen.
Amen.
On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations. Garde ces choses dans notre cœur, qu'on ait toujours les yeux ouverts sur les possibilités que le diable essaye de nous éloigner de l'Église, d'essayer de nous séduire, nous tromper, nous mêler, nous amener à embarquer dans les divisions, puis à vivre une manière qui n'est pas conforme à ta parole. Seigneur, donne-nous de rester comme tu nous l'enseignais. Merci pour ta parole, Seigneur. Garde-nous dans la foi qui sauve jusqu'à la fin. On remet nos vies entre tes mains. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.